France Inter, franceinter.com.
Bonjour à tous et bienvenue dans Service Public. Vous qui nous écoutez, avez-vous un iPod ? Pourriez-vous envisager de vivre sans téléphone portable ? D'après vous, ces objets sont-ils vraiment utiles ? Voilà quelques questions pour démarrer l'émission. Eh bien, ces questions, elles sont souvent posées par les théoriciens de la décroissance. Leurs adeptes ont-ils été visionnaires ? C'est l'une des questions qu'on va se poser ce matin. En effet, depuis quelques mois, crise aidant bien sûr, on voit apparaître de plus en plus de personnes qui choisissent délibérément de moins consommer, de moins gaspiller, d'acheter local, d'acheter bio ou encore vert. Alors, est-ce que tout cela participe d'un même mouvement de fond ou est-ce un effet de mode passager ? Ce matin, nous allons nous interroger à l'occasion de la sortie d'un livre. C'est celui de Paul Ariès, politologue et passionné de longue date par la décroissance. Non au toujours plus, tel est son credo. Une réflexion, il faut bien l'avouer, qui est bien souvent stimulante, séduisante, mais qui n'empêche pas quelques questions. Comment en effet peut-on défendre la décroissance en pleine crise ? Alors que, pour ne citer qu'un exemple, l'industrie automobile ferme ses usines et aurait bien besoin de croissance. Comment défendre la décroissance alors que des milliers de gens condamnés au travail précaire aimeraient bien ne pas subir ce diktat qui impose de se contenter d'achats au compte-gouttes. Le débat est donc ouvert avec plusieurs invités ce matin et sachez que bien sûr, beaucoup de personnes pratiquent la décroissance depuis fort longtemps et on les entendra au micro de Thomas Chauvineau.
On n'est pas parfait de toute façon parce que de temps en temps, ça nous arrive d'aller à Carrefour chercher de la nourriture pour le chien. Au début que j'ai recommencé à travailler, au début des années 80, bon ben Carrefour, on y allait toutes les 3 semaines, un mois quoi. Aujourd'hui, on y va une fois tous les 3 mois. Donc, bon. Mais ça s'est fait aussi petit à petit parce que, effectivement, ben, je pense que cette prise de conscience d'une autre façon de consommer, elle s'est faite au fur et à mesure des années.
Et voilà Christian et Monique qu'on entendra tout à l'heure dans l'intégralité de leur interview réalisée par Thomas Chauvineau, comme je le disais. Et oui, on n'est pas parfait, on va parfois chez Carrefour, c'est ce que disent Christian et Monique. Un autre mode de consommation est-il possible ? 01 45 24 7000. Vous aussi, vous pouvez vous exprimer sur ces questions. Vous pouvez participer à notre débat ce matin qui réunit 3 invités, je l'ai dit. Premier invité, Paul Ariès, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes politologue, sociologue également. Vous avez publié de nombreux ouvrages et un de vos livres vient tout juste de sortir, c'était il y a quelques semaine, apprendre à faire le vide pour en finir avec le toujours plus. Tout est dit dans le titre et le sous-titre de ce livre. Il est sorti aux éditions Milan. Vous le publiez avec Bernadette Costa-Prades. Et vous êtes, je l'ai dit, depuis très très longtemps, un adepte de la décroissance.
Ben oui, parce que tout simplement, je dirais que la décroissance, c'est pas une fatalité, c'est en fait un choix. Et je dirais que les objecteurs de croissance, ce sont ni des durs à jouir, ni des pisse froids. On pense simplement qu'il faut en finir avec le culte de la consommation, le culte du toujours plus. Et pour cela, il faut qu'on cesse de refouler 2 choses qu'on sait tous. La première, c'est qu'aujourd'hui, 20% des humains dont nous sommes s'approprient 86% des ressources planétaires. Imaginez que vous invitiez à votre table 4 amis, vous avez un gâteau, vous faites 5 parts, vous mangez les 4 premières parts et vous laissez la 5e aux 4 autres. Alors, ce n'est pas très joli par rapport à nos propres valeurs comme l'égalité ou la fraternité. Mais ça ne serait pas si grave si on pouvait avoir l'espoir de rattrapage possible. C'est-à-dire si on pouvait croire que le gâteau puisse encore grossir. Mmh. Et c'est là où on tombe, heureusement ou malheureusement, sur le deuxième constat. Si 6 milliards d'humains vivaient comme nous, une seule planète Terre ne suffirait pas. Autrement dit, la croissance, ce n'est pas la solution, ni pour les pays riches, ni même pour les pays pauvres qui devront inventer d'autres façons de satisfaire les besoins fondamentaux.
Alors, pendant cette heure d'émission, on pourra vous confronter à d'autres avis, les avis de nos auditeurs, les avis de... les opinions de nos invités, puisque c'est vrai qu'on va beaucoup s'interroger sur la croissance. Je l'ai dit, en période de crise, cette croissance, elle paraît indispensable à certains, notamment à ceux qui perdent leur travail et qui aimeraient bien justement un peu plus de croissance pour pouvoir continuer à vivre décemment. Avec nous, justement, il pourra nous faire part de son avis sur cette question. Éric Allaudy, bonjour.
Bonjour Isabelle.
Alors vous êtes ingénieur de formation et aujourd'hui, vous avez monté un cabinet de conseil. Vous êtes le directeur d'une société qui s'appelle Intégral Vision et vous conseillez les entreprises. Donc vous participez, vous allez nous le dire, mais je crois que vous n'avez aucun problème avec le mot croissance, puisque vous travaillez avec de grandes sociétés comme Decathlon, Renault, Dim, et vous militez pour le développement durable. Vous militez pour une croissance verte. Vous incitez, vous allez me dire si c'est la vérité, vous incitez toutes ces entreprises à aller vers la récupération, l'éco-innovation. Ça, c'est votre, C'est votre credo à vous.
Oui, tout à fait. Donc déjà, j'aimerais dire qu'on partage avec Paul Ariès en fait le même constat, qu'on est vraiment dans une crise de civilisation. Mm-hmm. C'est pas uniquement une crise financière. Donc on est vraiment face en fait à une crise qui demande en fait un changement de paradigme. Donc certainement qu'on a une approche différente et que certainement en fait les différentes idéologies ont du bon et du moins bon, et qu'il faut sans doute en fait tous se rassembler pour voir en fait ce qui peut émerger de meilleur de tout ça.
Mais quand Paul Ariès nous dit que la croissance n'est pas la solution, je n'ai pas l'impression que vous devez être d'accord, puisque vous travaillez avec des entreprises qui sont dans la croissance.
Oui. Je dirais qu'en fait, on fait en sorte que les entreprises élèvent leur niveau de conscience. Mmh. C'est-à-dire pour nous, en fait, la solution, c'est
pas... Mais développent leur croissance, une croissance verte. Non, c'est un petit peu ce que vous leur conseillez.
Ce qu'on propose, en fait, c'est pas de gérer la décroissance, mais c'est de gérer la perspective et le niveau de conscience des entreprises. À partir de cette nouvelle perspective-là, à ce moment-là, ils peuvent créer... ils peuvent réinventer leur système de production, ils peuvent réinventer leurs produits. Mmh. Par exemple, on travaille beaucoup aujourd'hui à caler les systèmes de production actuels sur le cycle naturel. Dans la nature, en fait, rien ne se perd, rien ne se crée. Ouais. Tout se transforme. D'accord ?
Je donne un exemple. Hein. Vous avez, par exemple, conseillé DIM il y a quelque temps mmh. et vous leur avez proposé d'inventer un nouveau collant qui est un collant recyclable.
Tout à fait.
Alors là encore, c'est une belle innovation, mais qui participe justement à la croissance. C'est une idée qui participe au développement durable.
Qui participe à l'évolution. C'est-à-dire que, contrairement au développement durable, où il s'agit souvent de restreindre en fait, un petit peu l'impact de l'industrie, de l'activité humaine, où finalement tout ce qu'on fait de manière basique, c'est un petit peu négatif, on dit en fait ayons une approche en fait qui soit positive, calée sur des modèles qui marchent indéfiniment, comme le modèle naturel. Donc ouais. dans l'exemple des collants que vous citez, l'idée c'est de refabriquer à partir des collants usagés, des déchets, selon le paradigme déchets égale nourriture, d'autres collants avec les mêmes qualités.
Oui. Alors on le voit bien, hein, en vous entendant là, en quelques minutes, on comprend bien qu'il y a des problèmes de définition et on va passer un petit peu de temps justement, mm-hmm. peut-être les 5 premières minutes de cette émission, à s'interroger sur ces différents mots. Il y a la décroissance, il y a la croissance verte, il y a le développement durable. Troisième invité, il vient d'arriver à l'instant et je vais juste l'inviter, je vais vous proposer, vous restez sur ce micro, voilà, vous êtes bien. Philippe Frémaux, j'ai failli vous appeler Thierry Frémaux, vous voyez, c'est le
Festival
de
Cannes
voilà, qui est encore dans ma tête. Vous êtes le directeur d'Alternatives Économiques, qui est un journal qui réfléchit beaucoup à la marche du monde hein, et à l'économie, qu'elle soit libérale ou non. Vous allez pouvoir nous éclairer. Je voudrais juste vous citer 2-3 mails d'auditeurs avant de vous donner la parole, pour vous dire à quel point les gens s'interrogent et sont perdus peut-être hein, dans tous ces mots. Il y a une personne, par exemple, qui nous dit « Moi, je ne parle pas de décroissance, je parle de consommation raisonnée. » Donc là, on commence à s'y perdre. Hein. C'est ce que nous dit Jean-Marc. D'habitude, on négativise quand on parle de décroissance. Croissance, nous dit cet auditeur. Ce sont ceux qui s'opposent à la vision libérale. J'ai 2 enfants, nous dit également Jean-Marc, 15 et 8 ans. Nous ne rejetons pas la consommation en bloc, mais nous essayons de faire le tri. Le terme de décroissance ne doit pas s'opposer à la croissance. Je vous cite également une autre personne, un auditeur d'ailleurs, qui se demande comment peut-on parler de décroissance dans une émission qui traite de la consommation. N'y aura-t-il pas un a priori négatif? Je vous rassure tout de suite. Hein, non, il n'y aura pas du tout d'a priori dans cette émission. Il n'y en a jamais. En tout cas, je crois que dans une émission qui s'appelle Service public et qui s'interroge sur la société de consommation. On peut vraiment s'interroger aussi sur la décroissance, il n'y a aucun problème. Et puis nous avons par exemple Axel aussi qui nous envoie ce message. La planète ne grossit pas, donc ça rejoint un petit peu ce que vous disiez, Paul Ariès, avec l'exemple du gâteau. La population humaine augmente, même en consommant raisonnablement. La décroissance est inévitable, durable et pas négociable. Si tous les humains, ajoute cet auditeur qui a de l'humour visiblement, si tous les humains veulent leur Rolex à 50 ans, l'humanité disparaîtra cordialement. Voilà. Donc, définition, décroissance, consommation raisonnée, déconsommation. On entend, Philippe Frémaux, énormément d'expressions et on est un peu noyé sous toutes ces expressions.
Oui, c'est vrai que je dirige un journal qui a écrit il y a 25 ans que le jour où les Chinois voudront tous accéder au mode de vie américain, la planète explosera.
Ouais. Et, c'est peut-être ce qui est en train de se passer, non? Je voulais
vous m'avez volé ma phrase.
Pardon.
Non, mais ça prouve que finalement, notre message finit par passer aussi.
Ouais.
Et donc, la question du changement de nos modes de production, de nos modes de consommation est une question centrale. Et de ce point de vue-là, je pense qu'on sera pour la plupart d'accord dans ce studio. Ensuite, il y a une question autour des mots. C'est que, en fait, je pense que le grand intérêt du concept de décroissance, pour moi, c'est qu'il nous invite tous à réfléchir sur le contenu de l'activité économique. Mmh. Et la question, c'est qu'est-ce qu'on a envie de produire pour satisfaire ce qu'on estime être nos besoins. Et derrière la question, je pense qu'il faut sortir du débat d'économistes. C'est-à-dire, si on est dans des économistes qui opposent les partisans de la croissance, verte, rose, enfin vous l'appelez comme vous voulez, les partisans de la décroissance, qui, par certains côtés, peuvent chercher parfois, et c'est la critique que nous, Alternatives économiques, parfois on fait, de nous imposer un certain mode de vie au nom de l'idée qu'ils se font du bien, c'est-à-dire, on évacue la vraie question, qui est la question de la démocratie, en fait, qui est la question, au fond, de comment on décide de ce qui est bon pour l'humanité. Alors qu'aujourd'hui, dans le système capitaliste, il faut bien l'appeler comme ça, tel qu'il fonctionne aujourd'hui, ces décisions sont largement des décisions implicites et qui sont prises en fonction d'intérêts qui sont quand même des intérêts particuliers. Donc nous, notre souci, c'est de remettre la question économique au cœur de la libération démocratique. Ce sont des questions qui nous concernent, vous, moi, pour savoir qu'est-ce qu'on a envie de faire de notre vie, qu'est-ce qu'on a envie de produire, et est-ce qu'on est capable de laisser une planète qui soit vivable également pour nos enfants dans un contexte où la progression de la population mondiale pose quand même beaucoup de questions, je veux dire, parce que non seulement on est aujourd'hui entre 6 et 7 milliards, mais on sera autour de 10 milliards d'ici quelques décennies. Et donc la question de savoir comment on va nourrir, ne serait-ce que nourrir 10 milliards d'hommes, est une question centrale, notamment sur le plan environnemental, sur la protection des terrains, sur l'amélioration de la productivité agricole sans utiliser des méthodes qui sont des méthodes qui consomment des ressources non renouvelables. Bon, il y a énormément de défis énormes face à l'humanité, qui doivent être débattus démocratiquement. Si vous voulez, après, on reviendra sur pourquoi ça n'avance pas.
Oui, alors Polariès, moi j'ai envie aussi de dire deux, trois mots quand même sur votre ouvrage. Moi, je l'ai plus vécu comme un ouvrage qui nous apprend à moins gaspiller, non au toujours plus, hein, ça revient incessamment, plutôt qu'un véritable ouvrage théorique sur la décroissance. Il y a des théoriciens qui vont beaucoup plus loin que vous. Et vous, j'ai l'impression que vous insistez plutôt sur notre manière de vivre, etc., sur ces objets inutiles. Vous passez beaucoup de temps à expliquer qu'il y a des objets dont on s'entoure, dont on n'a pas besoin. Vous donnez d'ailleurs des exemples très concrets, très intéressants, notamment sur le nombre d'objets qu'il y avait dans une maison il y a encore 30 ou 40 ans, le nombre d'objets qu'il y a aujourd'hui, c'est assez frappant. Est-ce que finalement, vous pourriez nous dire qu'aujourd'hui, la vraie solution, c'est ça, c'est le non au gaspillage, plutôt que de dire aux entreprises, arrêtez d'être dans une obsession de la croissance.
L'un n'empêche pas l'autre, mais j'essaye toujours plutôt de dire que je dirais que la décroissance, c'est pas être, je dirais, plus écolo que les autres. Et moi, je suis objecteur de croissance pour deux raisons. La première, elle est très simple, c'est une raison écologique. On sait que la Terre ne peut pas absorber chaque année plus de 3 milliards de tonnes d'équivalent carbone. Ça, c'est presque un chiffre qu'il faudrait inscrire sur le fronton des mairies à côté de la devise républicaine. Mmh. C'est-à-dire que si on traduit toutes nos activités, le fait de manger, de s'habiller, de se déplacer en équivalent carbone, si on dépasse ce maximum de 3 milliards, on rend à nos enfants une terre qui est moins viable. Où j'en suis, nous en sommes presque à 7 milliards, le double de ce qui est possible. 3 milliards de tonnes d'équivalent carbone. Pour 6 milliards d'humains, ça fait 500 kilos d'équivalent carbone par personne et par an. Si je dépasse 500 kilos, ça veut dire que je prends sur la part des plus faibles et des plus que faibles, c'est-à-dire ceux qui n'ont pas encore la parole, des générations à venir. Et 500 kilos, c'est quoi? 500 kilos, c'est un vol en avion aller-retour Paris-New York, 543 kilos d'équivalent carbone. C'est 5000 kilomètres par an. Donc je ne vois pas comment on peut faire de la croissance propre, qu'elle soit rose, bleue, rouge ou verte. Puis la deuxième raison...
Il y a des gens qui font la différence entre vert sombre, ça c'est la décroissance, et vert vif, ça c'est le développement durable.
La deuxième raison pour laquelle je suis objecteur de croissance, c'est que notre société a totalement sombré dans la démesure, dans ce que les Grecs anciens appelaient l'hubris. Je dirais un individu, un enfant qui n'est pas capable de se donner des limites, il va aller chercher dans le réel. C'est le développement des conduites à risque, le développement de la toxicomanie, le développement du suicide. Une société qui n'est pas capable de se donner démocratiquement des limites, elle va aussi les chercher dans le réel.
Alors, je vous arrête parce qu'on voudrait comprendre votre raisonnement, justement. Comment on va vers ces extrêmes limites en consommant uniquement des produits qui, pour certains, nous semblent essentiels. Je parlais au début de l'émission de téléphones portables et d'iPod. Prenons juste quelques exemples, peut-être pour nos auditeurs, pour ne pas rester non plus dans un débat théorique. Prenons quelques exemples. Vous prenez l'exemple du cola. Et vous dites, par exemple, qu'aujourd'hui, il existe non seulement du Coca-Cola, il faut bien le citer, mais également du Meca-Cola. Je ne sais plus comment il s'appelle, mais il existe un Coca-Cola Corse. Il existe du Brescola également en Bretagne. Alors ça, pour vous, c'est pas possible. Ça vous semble vraiment de l'hyperconsommation et du gaspillage. Moi, je vraiment en candide, je me dis juste que qu'il y ait du Brescola et du mais je sais plus comment ça s'appelle là, du Meca-Cola, c'est créateur d'emplois. C'est peut-être aussi un développement de marché qui ensuite permet à des personnes d'avoir un emploi, etc., etc. C'est peut-être pas forcément une mauvaise chose.
Alors déjà, la décroissance, c'est pas la récession. Mm-hmm. Je dirais que aujourd'hui, la croissance négative, je veux dire, avec son cortège de misère et de chômage, c'est pas nous. Ce sont effectivement les partisans de la croissance. Et je dirais, la question du Meca-Cola, du Corsica-Cola, c'est tout le débat sur le commerce dit équitable ou éthique. Pour nous, la vraie question, c'est pas de voter avec son porte-monnaie. La vraie question, c'est de voter avec son bulletin de vote. C'est effectivement de redevenir avant tout des citoyens. Et puis de revenir aussi, non pas
mais
des consommateurs...
Mais pourquoi ces différentes formes de cola vous semblent du gaspillage ou de l'hyperconsommation?
Parce que c'est l'idée qu'un individu se définirait avant tout par la sphère économique. Et pour moi, nous ne sommes pas avant tout
là,
des forçats
du
travail
régionalisme,
et des forçats de la consommation.
Vous allez vous mettre les Corses et les Bretons à dos, là?
Non, parce qu'aujourd'hui, toute une partie, effectivement, du mouvement régionaliste considère que ce n'est pas le bon combat. Le bon combat, c'est de réinvestir la scène politique. Et moi, j'aurais tendance à vous dire que lorsque je vous rêve pas en consommatrice, je vous rêve en ménagère. C'est-à-dire que lorsqu'on parle aujourd'hui de société de consommation, on a le sentiment qu'une société de consommation, c'est simplement une société où on consomme plus que dans une autre. Ça, c'est bon pour les bouquins d'économie du secondaire. Une société de consommation, c'est une société où on entretient d'autres types de rapports aux objets. C'est-à-dire qu'on va avoir des objets simplement pour les accumuler, pour le paraître. Et je dirais, tant qu'on restera dans cette logique-là, il n'y a pas d'issue. Donc, la nécessité, aujourd'hui, de ne plus être, je dirais, simplement des consommateurs de produits alimentaires, mais de devenir des mangeurs, de ne plus être des consommateurs de produits touristiques, de redevenir des voyageurs. Il faut redevenir des usagers, au pluriel, maîtres de nos usages. Et ça, ça nécessite d'en finir avec le discours publicitaire.
Mais il y a beaucoup de gens qui, en vous écoutant, pensent que vous prenez un retour à la bougie. Je vois par exemple Gilles Elie, un auditeur qui habite à Lens, il nous dit, ben, la décroissance, ben voyons, à quand le retour aux roues en bois, la corvée de bois pour nous chauffer, faut-il se laver dans des bassines et à l'eau froide, ces gens-là sont insupportables, ils régressent, etc., etc. Foutez-nous la paix. Bref, je ne vous cite pas l'intégralité du mail, visiblement c'est un auditeur en colère, mais c'est vrai qu'on a l'impression que vous prenez un retour en arrière.
C'est une excellente question, parce qu'il n'y a jamais de retour en arrière possible. Croire que la société, d'après la voiture, ça sera le retour à la calèche, c'est se tromper. Croire qu'on puisse revenir en arrière, c'est comme croire qu'un individu qui subit ce qu'on appelle une régression en âge redeviendra un enfant. Non, c'est un individu malade. La société d'après le productivisme, c'est une société qui a inventé. Bien sûr qu'il y a des choses qu'il va falloir conserver. Je dirais que cette société capitaliste, elle n'exploite pas seulement, elle détruit. Et je dirais que la grande force de la société capitaliste, elle est double. C'est d'un côté, sa capacité à susciter le désir et à rabattre le désir sur les besoins marchands. Or, comme le désir est illimité, ben on n'arrête pas de consommer toujours plus. Et sa deuxième grande force, c'est sa capacité à insécuriser. Insécurisé d'abord sur le plan économique, développement de la précarité, des petits boulots, mais insécurité aussi sur le plan psychique, la casse des identités, qu'elles soient collectives ou individuelles. Et donc si on veut échapper finalement à cette évolution qui est complètement morbide, la seule solution c'est de renouer avec le sens des limites, d'en finir avec la dictature de l'économie et de faire primer la culture, parce que c'est elle qui nous immunise contre toutes les fantasmes les plus archaïques, le culte de la toute-puissance, l'idée d'un monde sans limite et avec le politique. Et là-dessus, je suis totalement d'accord, bien sûr, avec Philippe Frémaux.
Et Philippe Frémaux, vous êtes d'accord avec Paul Ariès?
Il y a un point sur lequel je serai en désaccord avec lui, c'est sur les manuels du secondaire. Précisément, si vous connaissiez un peu ce qui est enseigné en sciences économiques et sociales, vous ne diriez pas ce genre de choses, puisque toute la première partie du programme de terminale économique et sociale est justement une réflexion sur le contenu de la croissance, le développement humain, etc. Mais enfin, c'est un point pour mes amis enseignants de sciences économiques et sociales. Bon, sur le reste, ensuite, je crois qu'il a très bien dit, effectivement, ce qui est la critique radicale de la société dans laquelle on vit aujourd'hui. Moi, j'ai dû, sans doute parce que je suis plus, social-démocrate au sens historique que vous pouvez prendre ce terme, j'ai tendance à penser que la question centrale, finalement, c'est la question des inégalités et aussi de la fragmentation du monde. C'est-à-dire que c'est aussi les inégalités qui entretiennent la frustration générale, le fait que le désir de beaucoup est inassouvi parce qu'ils regardent au-dessus d'eux. Et que donc, de fait, c'est très difficile, effectivement, dans un monde du bling-bling de la Rolex et de la Porsche Cayenne, de dire aux pauvres, salauds de pauvres, vous êtes en train de bousiller la planète. Et effectivement, je comprends très bien cette personne qui vous dit, on veut nous renvoyer à l'âge de pierre, parce que c'est l'image auquel on renvoie les partisans d'une économie qui serait différente. Alors, vous savez, dans chaque camp, il y a toujours ces extrémistes. Je veux dire, parmi les partisans de la décroissance... j'en connais qui effectivement sont un peu tendance bougie. Mais quand
il faudra surtout nous dire, Philippe Frémaux, il faudra surtout nous dire si vous pensez que ce modèle il est viable, oui ou non.
Attendez, le modèle qui n'est pas viable, l'évidence, c'est le modèle d'aujourd'hui. Là, on va dans le mur, à fond à l'heure, et en klaxonnant.
Avec l'idée qu'on puisse s'orienter vers le développement durable.
Le débat entre nous, il est de savoir quelles sont les conditions politiques et sociales qui permettent d'arriver à une croissance, un mode d'activité économique qui soit réellement
soutenable. Mais pourquoi la croissance vous fait peur à ce point-là ?
Non, la croissance ne me fait pas peur, parce qu'il est évident que dans la société, dans une société différente, il y a évidemment des activités qui auront une croissance extrêmement forte.
Éric Alaudy, vous qui travaillez quand même avec des entreprises, je l'ai dit, comme Decathlon, etc., vous pensez vraiment que le modèle que nous avons aujourd'hui va dans le mur ? Il n'y a pas des lueurs d'espoir, justement, avec le développement durable ?
Je pense qu'en fait, il faut changer de direction. Ça, c'est clair. Donc, c'est-à-dire que le système productiviste qu'on connaît aujourd'hui, effectivement, est sans issue. Donc, mais il faut que les entreprises passent du problème, cessent de faire partie du problème, fassent partie de la solution. Donc, il faut changer leur culture, changer leur mode de production. Et par exemple, penser, dès que je conçois un produit à sa fin de vie, de manière à ce qu'il soit recyclé pour que les ressources qui le constituent, les nutriments finalement, soient pas perdus pour les générations futures, c'est un moyen en fait de changer les choses. Moi, ce qui me frappe, c'est qu'on peut voir deux visions en fait des choses au niveau de la réalité d'aujourd'hui. On peut soit considérer qu'éventuellement l'humanité et donc ses activités sont, on va dire, en phase adolescente. Et donc, moi, ma fille, en fait, si elle se met à fumer, si elle se met à boire un petit peu, en fait, j'ai besoin de comprendre, en fait, pourquoi elle fait ça, la sensibiliser, l'aider, en fait, à prendre conscience, en fait, de pourquoi c'est bien, pourquoi c'est pas bien. Donc, l'informer, donc, apporter de la moralité, apporter du sens, en fait. Moi, je suis assez d'accord avec ce que dit Edgar Morin, en fait, qui dit finalement, cette crise de civilisation, c'est une crise spirituelle, en fait. C'est quand M. Trémaux dit, en fait, par exemple, le désir est inassouvi parce que les pauvres regardent, en fait, les nantis, je dis, en fait, regardons-nous nous-mêmes. On est nantis et pour autant, on est aussi plein de désirs inassouvis. Donc, ça veut dire qu'il y a une quête de sens, à mon avis, qui est plus profonde qu'uniquement en fait, des aspirations en fait, d'ordre politique. Donc, c'est vraiment important de voir que c'est uniquement en commençant à se questionner sur nos propres tensions existentielles que les choses peuvent changer, en fait.
Nous allons, si vous voulez bien, faire une petite pause en écoutant deux personnes qui, un peu comme M. Jourdain, faisaient de la prose en l'ignorant, pratiquent la décroissance sans vraiment que ce soit affiché et étiqueté sur leur front. Christian et Monique habitent un petit pavillon à Bondy, en Seine-Saint-Denis, et depuis les années 70, en fait, ils s'interrogent, comme nous le faisons ce matin, sur leur manière de consommer. Ils pratiquent ce qu'ils appellent peut-être une forme de simplicité volontaire, sans s'appeler vraiment décroissance, sans être plus militant que cela, en tout cas pour eux, au quotidien, avoir cette réflexion sur leurs achats, ça leur semble essentiel. Ils ont par exemple récemment agrandi leur maison, ils ont fait une isolation parfaite de leur maison, résultat, ils ont divisé par deux leur consommation de fioul. Ils ont décidé de ne pas changer la chaudière, même si tout le monde leur conseillait. Voilà, pour vous donner quelques petits exemples, et on y reviendra, Thomas Chauvineau est allé leur rendre une petite visite.
Ah, c'est le chien qui s'énerve.
Il peut être agressif.
Ah oui. Quand vous dites que vous êtes simple, que vous vivez simplement, ça, pour vous, ça veut dire quoi, vivre simplement ?
On prend jamais de plats cuisinés, par exemple. On fait les yaourts, on les fabrique nous-mêmes. Moi, faire le pain dans un saladier et puis le mettre au four, ça ne me gêne pas. Les yaourts, on n'a jamais acheté de yaourtière. On fait ça avec la cocotte minute, avec des bocaux.
Refaire une soupe, ce n'est pas difficile. Mais bon, en même temps, on n'est pas non plus dans des organisations très précises, nous. Hein. Bon, c'est sûr qu'on est intéressé par le courant écologique depuis des années. Bon, donc, à notre façon, on y participe. Mais on n'est pas non plus dans des organisations très militantes, dire qu'il faut aller faire une manif, il faut aller verser, quoi. On est un petit peu en retrait de ça.
Qu'est-ce qu'on fait d'autre dans la maison ?
Dans la maison ou dans le jardin, je ne sais pas.
Hein. Oui, ben, y a le jardin ou ben, je fais du compost.
On peut aller voir. Ah, il y a le chien.
Non, mais ce n'est pas un problème.
Ah, c'est pas un problème. Vous m'avez quand même dit qu'il n'était pas toujours sympathique.
Je vais prendre les précautions nécessaires. Alors, vous ne bougez pas. On va le mettre au sous-sol. Donc là, ben, ainsi, je me suis installé quelques cuves de récupération d'eau de pluie, ce qui me permet d'arroser le jardin. Ça, depuis quelques années, j'ai mis une croix sur l'arrosage avec l'eau de la ville.
Pardon, c'est mon téléphone qui a fait du bruit.
Ah, bon.
Vous en avez un, vous, non ?
Deux. Téléphone ?
Téléphone mobile ?
Oui, j'en ai un, ouais. Ça me permet de rester en lien avec mon fils qui n'a pas de téléphone fixe. Mais bon, c'est pareil, hein, j'ai un contrat à 15 euros par mois qui me suffit amplement.
Mais vous êtes quoi, écolo, consommateur citoyen, éco-citoyen? Enfin, je veux dire, aujourd'hui, on a des mots partout, là, vous savez.
Ouais, ben moi, les mots, je m'en fous, c'est être. Et puis, je pense que si on raisonne un tout petit peu, la manière dont on consomme des matières premières qui sont non renouvelables, on va pas aller très loin. Bon, on a beau nous dire qu'il y a encore des réserves.
Mais vous, vous considérez comme quoi?
Ah ben comme citoyen, et puis qui essaye de mettre sa vie en adéquation avec ben, la réalité.
Aujourd'hui, on se rend bien compte finalement des méfaits de cette surconsommation, comment des gens, même parce qu'ils sont prisonniers de ce fonctionnement, sont prisonniers d'eux-mêmes aussi, quoi, finalement. Bon, quelque part, on se dit qu'il faut qu'on reste là-dedans.
Oui. Pour vous, il y a une forme de liberté là-dedans?
Je pense, ouais.
Ah oui, complètement.
Bah, la liberté de choisir et puis de ne pas avoir des crédits toujours au bout d'un truc pour pouvoir s'offrir quelque chose.
Oui, la simplicité, pour moi, c'est quelque chose de très important.
Vous avez une voiture?
Oui, j'en ai deux, mais des vieilles.
Pourquoi vous riez?
Ah bah parce que elle n'est pas récente.
La Super 5, elle doit avoir plus de 20 ans. Et puis le Ford Transit qui est devant, là, il a plus de 20 ans aussi. Et je ne veux pas les changer.
Pourquoi?
Un véhicule aujourd'hui est bourré d'informatique. Vous ne pouvez même plus démarrer en cas de panne de batterie avec des cordons extérieurs pour démarrer. Vous risquez de faire sauter le calculateur qui coûte une fortune. Quand vous voulez réparer quelque chose, il faut une console. Donc ben, vous êtes pris en otage par les constructeurs automobiles qui ont fait ce qu'il fallait pour rendre les gens complètement dépendants d'eux. Et puis la deuxième chose, ce qui fait des économies d'énergie avec une voiture, c'est quand vous ne roulez pas. Donc je fais attention à mes déplacements. Par exemple, dans Bondy, je me déplace systématiquement en vélo ou à pied. Et mon épouse, c'est pareil. Bon, s'il faut aller plus loin, bon, on a un fils qui habite dans l'Oise, effectivement.
En vélo, crois... c'est un peu, voilà. Un peu longué.
Voilà.
Mais c'est un camping-car de Baba Cool, votre truc, non?
Oui, c'est ça. On ne peut pas continuer quoi, à consommer comme on consomme. Bon, nous, on a toujours agi bon, à notre niveau. Bon, mais on se dit que bon, c'est peut-être une goutte d'eau, mais une goutte d'eau plus une goutte d'eau plus une goutte d'eau, voilà, ça fait les grandes rivières.
La conso, c'est votre affaire.
Service public.
Pour agir ensemble. 01 45 24 7000.
Pick up the phone, y'all.
DLA,
folks used to warn me about. I'm in trouble.
I'm in real big trouble.
I'm in real big trouble. You got anything to say, girl?
Someone please call 911. Yeah.
Pick up the phone, yo.
Tell them I just got shot down.
Tell them I just got shot.
Ce matin dans Service Public, le débat est vif. Nous parlons en effet de la décroissance à l'occasion de la sortie du livre de Paul Ariès, Apprendre à faire le vide, aux éditions Milan. Et beaucoup de mails, beaucoup d'appels d'auditeurs. Je vous citerai justement Pascal qui nous dit que lui, il a supprimé la voiture, il n'a pas de télévision, il n'a pas de micro-ondes, il n'a pas de téléphone portable. Il consomme de l'eau du robinet, mais il a un ordinateur et un MP3. Hein. Vous voyez comme quoi on peut réfléchir effectivement à la simplicité volontaire et à la décroissance. J'essaye de finir tous mes produits jusqu'à la fin. Il prend l'exemple du tube dentifrice. Je ne fume pas. Est-ce que je suis dans les normes? Se demande cet auditeur. On va chaîner tout de suite avec un autre appel d'auditeur. Il est à Strasbourg. C'est Stéphane. Bonjour Stéphane. Vous étiez en train de nous écouter. Vous vouliez réagir? Gabriel, pardon. Stéphane, ça sera tout à l'heure qu'on ira à Strasbourg. Gabriel, bonjour.
Bonjour.
Vous nous appelez d'où?
Du Havre.
Très bien. Je vous écoute. Vous vouliez réagir peut-être? Ça vous intéresse quand on parle de décroissance? C'est un mot qui vous plaît ou pas?
Non, ça ne me plaît pas parce que j'entends parler de ça depuis un moment et j'ai l'impression que je suis décroissante depuis 30 ans.
Ah bon? Racontez-nous.
C'est-à-dire que je consomme ce que j'ai, c'est-à-dire, si j'ai 1 200 € à dépenser, je les dépense, ça veut dire que je participe à la consommation et à l'économie de mon pays. Mais il semble quand même que la société encouragée par les gouvernements encourage à dépenser plus. C'est-à-dire, on me dit, vous avez 1 200 francs, donc vous ne pouvez pas dépenser comme votre voisine qui a 2 500.
Alors, euros, j'espère, non? Vous me parlez en francs, mais j'espère que pour vous que ce sont des euros.
Excusez-moi, en euros. Vous avez 1 200 €, votre voisine en a le double, vous avez besoin de ce beau salon à 5 000 €, allez voir un organisme de crédit, vous serez heureuse, il va vous rendre heureux, il va vous donner la possibilité d'acheter ça. Et j'ai l'impression que les gouvernements successifs, comme la société, veulent nous faire croire qu'il faut dépenser plus, qu'on n'est pas dans la norme si on dépense uniquement ce que l'on a.
Travailler plus pour consommer plus, mais en même temps consommer plus, c'est ce qui fait marcher cette fameuse machine, non? Et c'est ce qui fait de la création de valeur.
Voilà, alors que moi je ne prends pas l'avion, je vais me séparer de ma voiture parce que je vais être en retraite, je pratique le troc, la récup, et puis je suis très heureuse, j'habite en centre-ville et je suis très heureuse comme ça. Je consomme ce qui pousse dans ma région de préférence, et voilà.
Merci beaucoup Gabriel, et je crois que vous n'êtes pas la seule à vivre de cette manière. On va enchaîner tout de suite avec le témoignage d'Isabelle. Bonjour.
Bonjour.
Je vous écoute.
Oui, j'ai la même chose à dire que la personne précédente. C'est-à-dire qu'effectivement, sans vouloir participer à une idéologie forcenée, sans vouloir être écolo à tout craint, de toute façon, par simple bon sens, on vit dans une espèce comme ça de décroissance naturelle, pas forcément très réfléchie idéologiquement, mais simplement parce que ça sert à rien, parce que c'est ce que je disais à votre personne au standard. Moi, ma voiture a 10 ans, elle roule encore très bien, je l'avais déjà achetée d'occasion, je ne vois pas pourquoi, j'achèterai une autre voiture, et de toute façon, je roulerai peu. Mmh. Je suis aussi comme la jeune femme précédente, moi, je n'ai jamais pris l'avion, je ne le prendrai vraisemblablement jamais, et ça ne me manque pas, et ce n'est pas moi qui vais ajouter à ce qui est dépensé. Donc là où je voulais en venir, c'est que c'est une partie très peu importante de la population occidentale qui participe à cette dépense excédentaire qui nuit à la planète et surtout à la race humaine. Parce qu'en fait, je veux aussi dire quelque chose, c'est que la planète survivra à tous les excès des hommes. Par contre, les hommes, peut-être pas. C'est ça le problème. Mmh. Mais la planète survivra.
Merci beaucoup, Isabelle. Moi, cette réflexion, et puis celle qu'on vient d'entendre, Philippe Frémaux, me fait surgir une seule question, et je l'ai posée un peu tout à l'heure. Comment est-ce que le système de la décroissance peut être viable économiquement? Si, comme le dit Isabelle, tout le monde se met à ne plus acheter de voitures, l'industrie, c'est déjà le cas, automobile, ferme ses usines, non? Comment c'est viable, d'après vous?
La vraie difficulté, effectivement, c'est la difficulté de la transition. Et vous savez, il y a Lester Brown, qui est un spécialiste américain de ces questions, dit souvent, finalement, quand on regarde ce qu'ont réussi à faire les États-Unis, ce qu'ont réussi à faire les États-Unis au moment où ils sont entrés en guerre, en 41, pour reconvertir de manière extrêmement rapide leur économie, sortir un destroyer tous les 15 jours, etc., sans que le niveau de vie réel des habitants des États-Unis chute pendant la période, dire si aujourd'hui il y avait la volonté politique, alors que nos moyens techniques, notre intelligence collective, et sans commune mesure avec ce qu'elle était il y a 60 ans, je veux dire, jamais dans l'histoire de l'humanité nous avons eu autant de moyens techniques. Donc si la volonté était de changer radicalement nos modes de production, sans que la qualité de la vie des personnes qui vivent sur cette terre ne soit détériorée, nous pouvons le faire. Ce qui manque, c'est la volonté de le faire. Parce que, de fait, ça heurterait des intérêts extrêmement puissants. Et, de fait, ça heurterait tous les modes de fonctionnement de notre
société. Mais je suis désolée de reprendre le même exemple, pour rester très concret.
Mais on peut vivre mieux différemment.
Voilà, mais si on se met à ne plus acheter de voitures, l'industrie automobile ferme ses usines, donc c'est créateur de chômage. Vous êtes bien d'accord ?
Non. Je suis absolument en désaccord total avec cette question.
Donc c'est un autre mode de
l'économie,
vie.
L'économie, aujourd'hui, nous avons un choc conjoncturel extrêmement brutal. Je veux dire, moi, je pense aux salariés de Continental, je pense aux gens tous les intérimaires qui ont perdu leur emploi.
Mais justement, CPSA, les intérimaires etc. et les salariés de Continental, quand on leur parle de décroissance, ils n'ont qu'une envie,
c'est
de croissance, ils ont envie de retrouver
raison,
du boulot.
Parce que le système est ainsi fait que quelqu'un qui perd son emploi, c'est à lui d'abord d'en supporter les conséquences. Mmh. Ça supposerait que la société dans son ensemble soit capable de créer les conditions. Alors, je crois que vous êtes partisan, Paul Ariès, d'un revenu garanti, etc. Bon, c'est des choses qui se discutent. Mais en tout cas, un vrai système de flexi-sécurité écologique qui fait que les entreprises qui sont amenées à disparaître disparaissent, et qu'en même temps que les personnes qui travaillaient dedans disposent d'un revenu de remplacement extrêmement important. Qui leur maintient, assure leur niveau de vie, de la formation. Parce qu'il y a des tas d'activités qu'il faut développer. Moi, là où je ne suis pas en désaccord, les partisans de la croissance m'énervent, les partisans de la décroissance indifférenciée m'énervent aussi. Parce que si, par exemple, on se mettait tous à apprendre la musique, ben, ça ferait beaucoup d'activités. Alors, sans doute, Paul Ariès voudra le faire sous le régime de la gratuité. Moi, comme je suis un peu plus partisan de l'économie de marché, je veux dire, ça ne me dérange pas que ce soit payant et qu'on le paye avec des sommes, des chèques qu'on vous donne. Enfin, on s'en fout, ça. Mais je veux dire, il y a de la place pour plein d'activités nouvelles. Il y a plein de choses formidables à faire dans la vie.
Alors, Eric Alody,
notre imagination, elle est sans bornes.
Vous partagez cet avis. On va peut-être consommer moins de certains produits. Alors, je ne sais pas lesquels, peut-être les voitures. On va se mettre à consommer plus de produits recyclés, etc., d'après vous ?
Oui, M. Frémaux a dit quelque chose d'important, en fait. Il a dit qu'aujourd'hui, on dispose de toutes les technologies nécessaires. Donc, ce qui nous manque, c'est l'intelligence collective. Ce qui nous manque, en fait, c'est d'aller en fait, au-delà des corporatismes, au-delà en fait, des visions étriquées des uns et des autres. Si ensemble, en fait, on souhaite utiliser ces technologies pour le... Et ces philosophies aussi, et ces différentes approches et ces concepts, en fait, pour créer un monde meilleur, c'est possible.
Alors moi, puisque vous parlez de technologie, il y a un exemple qui revient très souvent, c'est l'exemple du téléphone portable. Il y a beaucoup d'auditeurs qui nous disent « on n'a pas de téléphone portable », je crois que c'est votre cas, Paul Ariès. Est-ce que là encore, on ne peut pas dire que ce téléphone portable, ça a été là encore créateur de richesses, créateur d'emplois, et également créateur de liens. Ça a été très utile pour beaucoup de gens, pour des médecins, pour des situations dramatiques, etc. Et puis voilà, ça fait partie de la vie.
Parlons pas d'emploi.
Non, mais
est-ce que c'est utile
quand même
ou pas ?
Tout un chapitre aussi sur objets inutiles ou non. Alors, le téléphone portable est-il un objet inutile pour vous,
Paul Ariès ? Vous auriez pu parler d'Internet aussi.
Et Internet aussi.
Bah, prenons l'exemple de l'informatisation d'Internet. Je dirais ça
mais
nous
aussi
est...
celui du téléphone portable.
Je reviendrai sur la question.
9 Français sur 10 en possèdent.
Oui,
et je pense que
la question du téléphone portable,
la question du téléphone est tout à fait,
je dirais, symptomatique de la situation. C'est-à-dire de la façon dont aujourd'hui, toutes les sociétés qui nous ont précédés ont toujours consacré l'essentiel de leur temps, une part importante de leur richesse, à la fabrique de l'humain, à la création du lien social. Aujourd'hui, comment pense-t-on résoudre les problèmes à l'école ? Par la généralisation de l'informatique. Comment pense-t-on résoudre les problèmes de communication ? Par la généralisation du téléphone portable. C'est-à-dire qu'on pense la production
Facebook
des richesses...
Facebook est un créateur de lien social.
Mais oui, alors, mais le problème, c'est qu'on sait qu'après le rapport de l'Institut du Massachusetts de technologie, que chaque clic sur Internet représente 7 grammes en moyenne d'émissions de carbone. C'est-à-dire si vous faites plus de 200 clics par jour, vous avez dépassé la quantité d'émissions de carbone auxquelles vous avez droit.
Donc la décroissance serait de moins utiliser Internet pour vous.
Non, je veux dire, il ne s'agit surtout pas de dire qu'il faut consommer moins de quelque chose pour consommer plus d'autre chose. Je crois qu'il ne faut pas prendre le problème comme ça, sinon on est coincé. La grande question, c'est de savoir comment donner envie de changer, comment susciter le désir. Prenons un exemple tout simple. Pourquoi paye-t-on aujourd'hui son eau potable le même prix pour faire son ménage et pour remplir sa piscine privée? Pourquoi paye-t-on son énergie, ses déplacements, le même prix pour ce que la société considère être une consommation normale et un gaspillage? C'est-à-dire qu'il faut aller vers un système de tarifs différents suivant les niveaux de consommation, suivant les types de consommation. Le problème, c'est que si on ne fait que ça, on enferme les pauvres dans le nécessaire pendant que les riches pourraient se payer le superflu. D'où la nécessité d'aller vers un revenu garanti couplé à un revenu maximal autorisé.
Ce sont les deux propositions phares donc, dans votre livre, et je renvoie donc les auditeurs à cet ouvrage, la gratuité pour les biens nécessaires et le versement d'un revenu universel d'existence. Vous n'avez pas répondu sur le téléphone portable. Alors pour vous, est-ce un objet inutile, oui ou non?
Mais parce que, je dirais, la société produit les objets et les humains qui vont avec. Il est évident qu'on ne vivait pas forcément moins bien avec le téléphone portable. Mais il ne s'agit sûrement pas de développer une culpabilisation. Je dirais que la décroissance, c'est finalement la tentative d'articuler trois formes de résistance. Ce que nos amis américains appellent la simplicité volontaire, essayer de vivre au maximum en conformité avec nos valeurs. Pour certains, ça veut dire se passer de voiture, pour d'autres, ne pas avoir de téléphone portable, ou choisir, je dis bien choisir, de travailler en temps partiel. C'est nécessaire. Moi, j'appartiens à une tradition politique, celle de la gauche, où on avait tendance à renvoyer le lendemain le changement de nos modes de vie au lendemain du grand soir. Et comme le grand soir ressemblait souvent à des petits matins blêmes, on ne changeait pas grand-chose. Donc tout ce qu'on peut faire dès maintenant, c'est positif. Mais si on ne fait que ça, c'est doublement insuffisant. C'est déjà insuffisant parce que à quoi ça sert d'être un certain nombre? À se faire plaisir, parce que consommer moins, c'est aussi de la jouissance. À quoi ça sert donc d'être un certain nombre à se faire plaisir si les logiques dominantes restent en place? Puis un deuxième danger, ça serait de basculer effectivement d'un discours politique à une sorte de discours moraliste, culpabilisateur. Et ça serait totalement inefficace. D'où la nécessité d'un deuxième niveau, c'est celui des expérimentations collectives. Tout ce qu'on peut bricoler dans les marges, dans les franges de la société, les coopératives, les AMAP, les services d'échange locaux, la presse alternative. Et le troisième niveau, ça serait l'ébauche du début d'un commencement d'un projet politique. Mais je dirais que la décroissance, c'est une auberge espagnole. On y rencontre aujourd'hui le meilleur comme le pire.
Je suis d'accord avec vous là. Hein. Ça, c'est vrai. Hein.
Mais c'est évident. La décroissance,
et on n'a pas le temps de rentrer dans le détail, mais c'est vrai qu'on a l'impression qu'il y a pas mal de chapelles.
Il
y a pas mal
de petites grenouilles qui auraient vocation à devenir aussi grosses que
c'est
le
pape. C'est vrai qu'à l'UMP et au PS, il n'y a aucune chapelle et aucune tendance. Et aucune... Non, mais c'est normal. Je veux dire. Ouais. En plus, c'est un mouvement d'idées qui est un mouvement en création. Donc, il y a à la fois. Moi, je suis tout à fait d'accord avec ce que je viens d'entendre. Et en même temps, c'est vrai que cette tentation moraliste, on la retrouve chez certains.
Il y a des ayatollahs également.
La complexité, en fait, c'est que la question n'est pas de changer radicalement l'homme. Je veux dire, on n'est pas dans ce truc-là. Au contraire, il faut accepter les hommes tels qu'ils sont. Et parce qu'on est des êtres culturels, on ne se définit pas uniquement par un être qui s'opposerait à un avoir. Je veux dire, le fait de consommer est une activité naturelle de l'être humain en tant qu'être culturel et social. On a envie d'être beau pour plaire, etc. On met des vêtements, etc. La question, c'est qu'à l'heure actuelle, la façon dont ça fonctionne nous emmène dans le mur, c'est tout.
Nous avons Jean-Jacques à Valence qui va pouvoir justement nous en parler de cette manière d'aller dans le mur. Jean-Jacques, vous partagez cette opinion ou pas? Bonjour.
Oui, bonjour. Moi, je partage énormément des constats qui ont été tirés sur effectivement le fait que le système dans lequel on est sûrement condamné à brève échéance. En revanche, il y a un truc qui me fatigue beaucoup avec les décroissancistes et l'idée de décroissance, c'est que l'idée elle-même est une idée que je trouve servile par rapport à l'idée de croissance. La décroissance, c'est le contraire de la croissance par définition. Et la croissance, c'est quoi? C'est la croissance du PIB. Et donc la décroissance fait elle-même référence au PIB, et ça me paraît un extraordinaire hommage que le vice, que la vertu rend au vice, parce que le problème, c'est bien le PIB lui-même, cette idée d'un indicateur qui agrège tout, qui agrège de la pollution et de la dépollution, de la construction et de la destruction, et parler de l'idée même de décroissance qui fait référence à cette idée quantitative et pas qualitative, qui est résumée par le PIB, me paraît une idée en elle-même qui conduit dans une impasse, parce que sur le plan du concept, de la conception, elle est calquée sur ce qu'elle prétend combattre.
Jean-Jacques, restez en ligne. Paul Ariès va pouvoir vous répondre directement.
Oui, je vais faire une confidence aux éditeurs de France Inter. Lors du grand colloque international qui a lancé le terme de décroissance, j'ai fait une intervention contre le terme de décroissance, en disant parce que nous sommes dans la critique négative. Il faudrait trouver quelque chose de positif. Alors on m'a dit, qu'est-ce que tu proposes ?
Il y a un auditeur qui propose des accoutumances à la croissance.
J'avais rien à proposer, donc j'ai pas été suivi. Et tant mieux, parce que le terme de décroissance, il fonctionne. Je dirais c'est un mot au but, qui sert à pulvériser l'idéologie dominante. C'est une fonction de poil à gratter idéologique. Je dirais que la décroissance, c'est un mot au but, la gratuité, c'est un mot chantier. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut basculer pour dire effectivement qu'il faut aller vers un ralentissement de la société, vers une relocalisation. Qu'est-ce qu'on produit pour quel type de besoin ? Et la question de la gratuité, à mes yeux, elle est centrale. Parce que la gratuité, on l'a chevillée au cœur. C'est à la fois le souvenir du paradis perdu, du sein maternel. C'est tout ce qu'on peut expérimenter dans les relations amoureuses, amicales, associatives, de voisinage.
Et que mettez-vous justement dans l'idée de gratuité des biens nécessaires ? Vous avez parlé de l'eau tout à l'heure, mais quels autres biens mettez-vous dans la gratuité ?
Alors, il y a deux chiffres aujourd'hui extraordinaires. Le premier, c'est qu'on sait qu'aujourd'hui, 150 familles à l'échelle planétaire ont un revenu équivalent à celui de 40 pays. Puis le deuxième chiffre très intéressant, c'est qu'on sait qu'avec 8% des ressources des 500 plus riches à l'échelle planétaire, on peut couvrir l'ensemble des besoins de base de l'humanité. C'est pas à moi de définir ce qui est nécessaire ou pas nécessaire.
Ça n'a pas de sens. Mais...
c'est pas à moi de définir, c'est aux gens. C'est-à-dire que dans les communes où on décide aujourd'hui de ne plus payer, par exemple, le ramassage des ordures de façon forfaitaire, mais en fonction du tonnage. Dans les communes qui ont décidé, comme celle de Grigny dans le Rhône, de rendre la cantine gratuite. On va dans le bon sens. Moi, je suis scandalisé.
Mais là, on n'est pas dans la gratuité, justement. On est au contraire dans l'hypermarchandisation. Faire payer les déchets en fonction du tonnage. Parce que tout le problème de la gratuité que vous posez, c'est quand même les risques de gaspillage. Vous le savez bien.
Mais alors, je veux dire, si ça, c'est le discours qu'on a entendu au moment des dernières municipales où un certain nombre de listes de gauche ont dit on refuse la gratuité des transports en commun. Chacun doit payer en fonction de ses revenus.
Pas pour les transports en
commun.
Mais
dans ce cas-là, si on tient ce discours, on peut le tenir aussi pour l'école. On peut le tenir pour la santé. La gratuité, c'est une valeur en soi. Mais je dirais que là aussi, il n'y a pas de culture marchande sans... il n'y a pas de société marchande sans culture marché. Il n'y aura pas de société de la gratuité.
Si l'eau est gratuite... Vous savez bien que si l'eau est gratuite, vous savez bien ce que ça a donné en Angleterre, par exemple. Vous connaissez bien le dossier.
Mais c'est bien la raison pour laquelle il faut effectivement réfléchir en termes de quantité progressive.
Voilà.
Et quand on parle de gratuité, on pense bien sûr à la culture. Il y a une auditrice, Juliette, qui est en train de nous écouter, qui nous dit, mais qu'en est-il de la décroissance en ce qui concerne les produits culturels ? Est-ce qu'il faut renoncer à aller au cinéma, au musée, à acheter des disques, consommer moins, d'accord, mais peut-être pas moins
la culture.
La culture,
c'est précisément ce qui peut être développé à l'infini.
Mais est-ce que c'est ce qui peut être gratuit ?
Vous savez, bien souvent, moi, quand j'ai des débats, on me dit, allez, les Chinois se développe, c'est affreux. Et je leur dis, attendez, le fait que les maçons chinois apprennent à construire mieux leur maison, que les médecins chinois acceptent à mieux soigner les malades, que les professeurs chinois acceptent à mieux enseigner, je ne vois pas...
Et il y a moins de mortalité en Chine quand même. Oui, eux, ils sont bien contents d'avoir de la croissance.
Ça ne m'appauvrit absolument pas. Parce que l'essentiel des richesses, elles proviennent de l'intelligence humaine. Et l'intelligence humaine, elle existe en quantité illimitée.
Messieurs, il nous reste vraiment une minute
pour
conclure.
Mais la question de l'auditrice, en fait, est fondamentale, en fait, parce que qu'est-ce qui détermine jusqu'où va la décroissance, en fait ? Qu'est-ce qui détermine, en fait, les canons de la décroissance ? Qu'est-ce qui est du domaine superflu ? Qu'est-ce qui n'est pas du domaine superflu ? Est-ce qu'il n'y a pas le risque de tomber dans une espèce de fascisme, en fait, de la décroissance ? Ça, c'est l'usage, ça, c'est du mésusage. Et l'art, c'est du superflu. Et c'est un superflu magnifique, en fait.
Mais la vraie menace fasciste aujourd'hui, elle est au niveau de la répartition inégalitaire des ressources. Vous savez très bien que quand on voit le stock de ressources non renouvelables qui reste à la planète, la tentation des plus riches de vouloir absolument préserver leur mode de vie, là est le risque, effectivement, d'une répartition inégalitaire extrêmement violente des biens. Et de ce point de vue-là, quand on se bat pour une décroissance, en tout cas pour un changement radical des modes de production, parce que, bon, on ne va pas discuter sur les mots, en tout cas, un changement radical des modes de production. On se bat d'abord aussi pour la paix et la démocratie.
Philippe Frémaux, je rappelle que vous exprimiez au nom d'Alternatives économiques. Le dernier numéro, d'ailleurs, est consacré à la crise, hein, c'est bien normal, et à la récession. C'est par où la sortie ? Donc, si vous intéressez à ce genre de débat, vous pouvez poursuivre la réflexion avec Alternatives économiques. Vous pouvez le faire également avec le livre de Paul Ariès, donc, j'ai cité, hein, aux éditions Milan. apprendre à faire le vide. Merci également à Eric Alaudy d'avoir été avec nous. Et merci à vous, hein, Polaris. Vous avez vu quand même un vrai succès. Hein, moi, je le dis très sincèrement, au standard de France Inter. Vous avez pas mal de fans, voire même un fan club. Revenez quand vous voulez pour continuer d'alimenter le débat. Et il faudra qu'on reprenne quand même cette discussion, puisqu'effectivement, on voit qu'elle est loin d'être consensuelle. Merci à vous tous. Et on va se quitter avec un autre sujet d'actualité. Ça sera dans Le Monde cet après-midi. Et c'est Martine Picouette qui est avec nous, journaliste au Monde, pour nous en donner quelques informations. Bonjour Martine Picouette.
Alors là, bonjour.
On ne va absolument pas parler de décroissance avec vous. Au contraire, c'est l'explosion, c'est le boom. Ce sont les campings qui en ce moment marchent très fort. Les réservations de campings viennent de dépasser les locations et l'hôtel. Ça, c'est une sacrée nouvelle tout de même. Là aussi, ça prouve bien qu'il y a un changement quand même. Dans la manière de vivre des Français.
Ah oui, on voit une évolution très nette. Et en effet, pour la première fois, si on en croit l'étude réalisée par ProTourisme qui est sortie au mois de mai, pour la première fois, les prévisions de réservation, puisque là, on est sur l'été 2009, passerait devant avec 19%, donc passerait devant les hôtels, les locations, etc. Ce qui est quand même un vrai, vrai changement.
À tel point, écrivez-vous dans votre article, que la France est la championne d'Europe des campings. Qu'est-ce que ça signifie exactement ?
Ça veut dire que c'est en France, il y a 40% de l'ensemble des campings installés en Europe, ce qui est quand même énorme, et un quart des emplacements.
Oui. Alors, qu'est-ce que l'on voit comme évolution notoire ? On voit que les campings ont changé. Si les Français sont séduits par cette manière de partir en vacances, c'est parce que les campings ont changé ou tout simplement parce qu'il y a la crise et parce que c'est moins cher ?
Etc. a quand même pas totalement disparu, mais ça attire quand même beaucoup, beaucoup moins de campeurs qu'auparavant. Par contre, on a vu énormément et on voit toujours se développer les mobil-homes, les chalets, les bungalows étoilés, etc. Et puis à côté, on a une explosion extraordinaire d'équipements en termes de piscines, de terrains de tennis, de restauration, etc.
Et tout cela pour un coût qui reste très intéressant. Hein. Vous parlez d'environ 400-500 euros la semaine, c'est ça ? C'est ce qu'il faut compter quand on...
Alors,
on a envie de partir en camping.
Il faut compter 450 à 500 euros pour une tente équipée pour 5-6 personnes. Bon, c'est un peu plus cher. On passe à 650-700 à partir du moment où c'est équipé aussi en sanitaire, où on a une terrasse. Et puis, pour un mobil-home familial, un chalet, c'est autour de 900 euros. Pour accueillir 5 à 6 personnes.
Merci beaucoup, Martine Picouette. Donc, c'est à lire dans Le Monde cet après-midi. Les Français donc se mettent au camping. Là aussi, il y a du signifiant derrière tout cela. Merci encore à mes invités. Alors, le camping qui fait un boom, on n'a pas le temps, il y en reste quelques secondes, Paul Ariès, mais vous voyez que la croissance a du bon aussi, non, pour certains, pour l'industrie
non,
du camping.
Le fait de refonder une autre forme de tourisme. C'est ce que je disais récemment au congrès des comités d'entreprise. Aujourd'hui, beaucoup de comités d'entreprise fonctionnent selon la même logique que les marchands, toujours plus loin, pour toujours moins cher. Il faut réinventer un tourisme social. Et de ce point de vue-là, ce que je viens d'entendre me réjouit plutôt.
Je voulais vous titiller en plus. Je ne voulais pas terminer l'émission sans entendre à nouveau votre passion. Merci à vous tous. Passez une très bonne journée à l'écoute d'Inter.